Une si fabuleuse ascension parmi les intrigues des cours n'avait pu s'accomplir grâce seulement à des talents de juriste et de théologien. Un trait connu d'assez peu de gens, car il relevait du secret à la fois d'Église et d'État, montrait bien l'astuce et l'aplomb dont Duèze était capable. Quelques mois après la mort de Charles II, il avait été envoyé en mission à la cour papale, dans un moment où l'archevêché d'Avignon, le plus important alors de toute la chrétienté, puisque résidence du Saint-Siège, était vacant. Toujours chancelier, et donc détenteur des sceaux, il rédigea tranquillement une lettre par laquelle le nouveau roi de Naples, Robert, demandait pour lui, Jacques Duèze, le siège épiscopal d'Avignon. Ceci se passait en 1310. Clément V, soucieux de se ménager l'appui de Naples, en une période où il rencontrait beaucoup de difficultés du côté de la France, accéda aussitôt à la requête. La supercherie se découvrit un peu plus tard lorsque Clément, recevant la visite de Robert, pape et roi se témoignèrent leur mutuelle surprise, le premier de n'avoir pas reçu de plus chauds remerciements pour une si grande faveur accordée, le second de n'avoir pas été consulté sur une nomination qui le privait de son chancelier. Plutôt que de faire éclater un inutile scandale, ils choisirent d'accepter la chose de bonne grâce. Chacun s'en trouva bien. Maintenant, Duèze était cardinal de Curie, et l'on étudiait ses ouvrages dans toutes les universités. Mais si étonnante que soit une destinée, elle n'apparaît-elle qu'à ceux qui la regardent de l'extérieur. Les jours vécus, qu'ils aient été emplis ou vides, agités ou tranquilles, sont tous également des jours enfuis, et la cendre du passé a le même poids dans toutes les mains. Tant d'ardeur, d'ambition, d'énergie dépensée avait-elle un sens lorsque tout devait inéluctablement basculer dans cet au-delà dont les plus hautes intelligences et les plus difficiles sciences humaines n'arrivaient à saisir que d'un déchiffrable lambeau. Pourquoi vouloir devenir pape? N'eût-il pas été plus sage de s'enfermer au fond d'un cloître, dans le détachement de tout? Se dépouiller de l'orgueil et de la connaissance et de la vanité de dominer, acquérir l'humilité de la foi la plus simple, se préparer à disparaître. Or, même cette sorte de méditation prenait chez le cardinal Duèze le tour d'une spéculation abstraite, et son anxiété de mourir se transformait bientôt en débat théologique. « Les docteurs nous assurent, pensait-il ce matin-là, que les âmes des justes, après la mort, jouissent immédiatement de la vision béatifique de Dieu, qui est leur récompense. Soit, soit. Mais les Écritures nous disent aussi qu'à la fin du monde, quand les corps ressuscités auront rejoint leur âme, nous serons tous jugés en dernier jugement. Il y a là une grande contradiction. Comment Dieu, totalement souverain, omniscient et parfait, aurait-il à évoquer deux fois le même cas devant son propre tribunal, et comment pourrait-il juger en appel de ses propres sentences? Dieu n'est point susceptible d'erreur. Et imaginez un double arrêt de sa part, ce qui suppose révision, donc erreur, est une impiété et même une hérésie. Du reste, ne convient-il pas que l'âme n'entre en possession de la joie de son Seigneur qu'au moment où, réunie à son corps, elle sera elle-même parfaite en sa nature? Donc les docteurs se trompent. Donc il ne saurait y avoir ni béatitude proprement dite, ni vision béatifique avant la fin des temps, et Dieu ne se laissera contempler qu'après le jugement dernier. Mais jusque-là, où se trouvent alors les âmes des morts? Est-ce que nous n'irions pas attendre sub altare Dei, sous cet autel de Dieu dont parle saint Jean dans son Apocalypse? Les pas d'un cheval, bruit inaccoutumé à pareille heure, retentirent le long des murs de l'abbaye sur les petits galérons qui pavaient les meilleures rues de Lyon. Le cardinal prêta l'oreille un instant, puis revint à son argumentation qui procédait tout droit de sa formation juridique et dont les conséquences allaient le surprendre lui-même. Car si le paradis est vide, cela modifie singulièrement la situation de ceux que nous décrétons saints ou bienheureux. Mais ce qui est vrai pour les âmes des justes l'est forcément aussi pour l'âme des injustes. Dieu ne saurait punir les méchants avant d'avoir récompensé les bons. C'est à la fin du jour que l'ouvrier reçoit son salaire, c'est à la fin du monde que le bon grain et l'ivraie seront définitivement séparés. Nulle âme n'habite actuellement en enfer, puisqu'aucune condamnation n'est encore prononcée. Autant dire que l'enfer, présentement, n'existe pas. Cette conclusion était plutôt rassurante pour quiconque songeait au trépas. Elle repoussait l'échéance du procès suprême sans fermer la perspective de la vie éternelle et s'accordait assez bien avec le sentiment commun à la plupart des hommes que la mort est une chute dans un grand silence obscur, une inconscience indéfinie, une attente subaltérée dei. Certes, pareille doctrine, si elle venait à être professée, n'irait pas sans éveiller de violentes réactions, aussi bien parmi les docteurs de l'Église que dans la croyance populaire. Et le moment était mal choisi pour un candidat au Saint-Siège d'aller prêcher la vacuité du paradis et l'inexistence de l'enfer. « Attendons la fin du conclave », se disait le cardinal.